Les monts et lacs en Haut-Languedoc vous racontent leurs petits secrets. Mais chut, ça reste entre nous. Notre territoire est riche d'une histoire extraordinaire. Des statues menhirs, plus anciennes encore que les pyramides d'Égypte, aux ouvrages d'art du Petit Train, en passant par la légende du Drac, les planques, les paillets, les églises, l'épopée industrielle des Salaisons, la construction des puissants barrages, ou encore les récits et destins de vie de nos aïeux, tous font de nos terres, toit du Tarn et de l'Hérault, l'opportunité de découverte unique. La diversité du patrimoine naturel est-elle aussi remarquable? Croisant les belvédères naturels du Caroux et de l'Espinouse au mont de la Cône, les sources de la Goutte au Grand Lac, la flore d'altitude à la faune typique. Mais qui se trouve à la croisée de ces nombreux chemins? Qui, chef d'orchestre, tiennent les baguettes qui mènent en musique l'exceptionnel croisement de l'histoire, des paysages et des arts sur notre territoire? Qui sont donc ces passeurs de sens qui capturent, tissent, peignent, sculptent, soufflent, mettent en scène, façonnent, forgent, taillent, découpent, imaginent, dessinent, composent, écrivent, créent sur nos hautes terres? Ce sont assurément les artistes. Aujourd'hui, lumière sur une figure du Tarn, dont on fête le 110e anniversaire de naissance cette année. Nikolaï Grechny, brillant peintre d'icônes qui a ponctué le territoire des plus formidables fresques. Né à Tallinn en Estonie en 1912, le parcours de l'artiste est semblable à un roman et son art nourri par un parcours à travers l'Europe. À 7 ans seulement, Nikolaï peint sa première fresque, une locomotive. À Berlin en 1930, il suit les Beaux-Arts, où il développe sa technique et sa connaissance de l'art occidental. Il entre ensuite, pendant 2 ans, comme stagiaire au musée de Nessa en Pologne. Les prémices de la Seconde Guerre mondiale sont synonymes de fuite pour Nikolaï. D'abord à Vienne, puis en Tchécoslovaquie, à Venise, et enfin à Rome, qu'il est également contraint de quitter en 1938. Un voyage éprouvant pour l'artiste, qui l'oblige alors à retourner à Tallinn. Rattrapé par la guerre, il s'enfuit en France, où l'attendent de terribles épreuves. Alors qu'il entreprend des études de théologie à l'Institut catholique de Toulouse, l'invasion allemande dans le sud de la France le remet en route, cette fois vers Albi, où il rencontre Charles Bayet, archiviste et fondateur de la Revue du Tarn, qui lui commande un triptyque et un chemin de croix pour la chapelle Saint-Michel du musée Toulouse-Lautrec. Parallèlement, Nikolaï Grechny entre en résistance. Au lendemain de la libération, il cherche à s'enraciner dans ce pays albigeois qu'il a accueilli et où il se sent si bien. En 1948, il découvre le village de Marsal et une ruine, la Morignée. Il le sait, c'est ici qu'il accomplira son rêve de construire une chapelle selon les canons classiques. Les années qui suivent sont d'une rare effervescence pour l'artiste. Des années où il exercera son art si caractéristique de la fresque et de l'icône dans plus d'une centaine de communes du sud de la France, dont la Case, Vabre, Alban, la Crouzette et bien sûr la Cône, à l'église Notre-Dame de l'Assomption. En 1952, il rencontre à l'occasion d'une exposition à Béziers, Marie-Thérèse, qui deviendra sa femme, et avec qui il aura 2 enfants. Il fonde une école de peinture pour transmettre son art et organise des stages que l'un de ses fils, Michael, anime encore aujourd'hui, et à qui l'on doit les fresques de l'église de Nage. Le 24 avril 1985, Nikolaï Grechny s'éteint à l'âge de 73 ans à la Morignée, achevée dans les années 60, où il repose en sa chapelle, ruine sortie d'errance. Cette chronique est l'occasion de rappeler le travail remarquable que l'Association des Amis de Nikolaï Grechny réalise aux côtés de Michael et de Marie-Thérèse. Marie-Thérèse qui, d'ailleurs, a soufflé cette année sa 100e bougie, et à qui nous souhaitons le plus formidable des anniversaires.